Première partie de cette émission consacrée aux Transsibériens, nous avons parcouru pas moins de 5000 km. De Moscou, gare de départ de ce voyage mythique, en passant par Kazan, au Tatarstan, Yekaterinbourg, dans l'Oural, et Krasnoïarsk et Novosibirsk, en Sibérie. Aujourd'hui, nous voyagerons donc à partir d'Irkoutsk, à quelques kilomètres du lac Baïkal, en plein cœur de la Sibérie. Rappelons que la Sibérie est un vaste territoire de 13 millions de kilomètres carrés pour seulement 3 habitants et demi au kilomètre carré. La Sibérie est partagée entre la toundra, à la végétation basse, et la taïga, aux forêts denses. Ici, le sous-sol gelé en permanence, le pergélisol, est un indicateur précieux du réchauffement climatique. En Sibérie, les étés sont courts mais agréables et les hivers sont longs et très rudes. C'est l'une des régions les plus froides du globe. Le record de la plus basse température est d'ailleurs de moins 71 degrés dans la République de Sakha. Irkoutsk est une ville très agréable et multiculturelle. Les traits des visages des personnes que l'on croise ici s'étendent vers l'horizon et nous rappellent que nous sommes en Russie, mais tout proche de l'Asie. La ville est localement surnommée « le petit Paris sibérien » en raison de sa riche architecture très développée pour la région. En effet, on peut y découvrir la cathédrale de l'Épiphanie et de nombreuses églises et lieux de culte, le vieux quartier historique avec ses maisons en bois. On y trouve d'ailleurs plusieurs maisons-musées de décembristes. Les décembristes sont des généraux ou des nobles, pour la plupart exilés en Sibérie, dans la première moitié du XIXe siècle, après une tentative de coup d'État ratée pour renverser le tsar. Dans cette agréable ville de Sibérie, on découvre aussi le brise-glace Angara, mis à l'eau en 1900, c'est l'un des plus vieux du monde encore conservé, et il fait office, aujourd'hui, de musée. Le monastère Znamensky, étape incontournable des visites de la ville, est le plus ancien de la région. Fondée au début du XVIIe siècle, on y admire quelques icônes religieuses de bonne facture. Un peu en retrait de la ville, le musée ethnographique en bois Taltsi représente un ancien village russe reconstitué. On y découvre le mode de vie des peuples de la région au XVIIe siècle, Evenk, Tov, Buryat. À une soixantaine de kilomètres d'Irkoutsk se trouve le charmant village de Lysvianska. C'est l'un des lieux les plus appréciés par les voyageurs russes et étrangers. Mais pourquoi diable un village de 2000 habitants, en plein cœur de la Sibérie, attire autant? La raison est toute simple. Ici, nous sommes sur les rives du lac Baïkal, le plus grand lac d'eau douce du monde. Son volume d'eau est plus important, par exemple, que la mer Baltique tout entière ou que les 5 plus grands lacs américains au complet. Majesté, le lac Baïkal est un des joyaux de la planète que tout voyageur rêve de découvrir. Qui n'a jamais été touché par la beauté des images du lac Baïkal gelé ? On y découvre l'espèce endémique de la région, le narpa ou phoque du Baïkal, l'omoule, poisson du lac Baïkal, tristement appelé pain du lac, tellement il était chassé et mangé par le passé, et est aujourd'hui une espèce en voie de disparition. Bien entendu, la région est aussi riche en ours et autres mammifères imposants. Ici, les balades en forêt offrent des points de vue panoramiques à couper le souffle. La Russie possède en effet la plus grande réserve forestière au monde, bien avant l'Amazonie avec les forêts d'Oural et de Sibérie. Le long du lac Baïkal se trouve le Circumbaïkal. C'est la ligne de chemin de fer transsibérienne historique du lac qui entoure celui-ci. C'était aussi, lors de la construction du Transsibérien, un véritable casse-tête pour relier Moscou à Vladivostok. En effet, pas moins de 40 tunnels, une trentaine de ponts et autres constructions de génie civil ont été construites pour permettre le passage du train. Aujourd'hui, les 82 km de voies ferrées toujours utilisables sur cet axe le sont pour des raisons touristiques et constituent sans doute le plus beau trajet en train au monde. Au cœur du lac se trouve l'île d'Olkhon, la plus grande du Baïkal. Elle s'étend sur 70 km et elle est constituée de hautes falaises, de paysages de steppes, de plages de sable, de hauts rochers. Une richesse de paysages sur une si petite île. Surtout prisée par les Russes et les habitants de la région, l'île reste peu visitée par les étrangers du fait de son accessibilité restreinte. En effet, à partir d'Irkoutsk, il faut compter environ 8 à 9 heures de trajet pour s'y rendre. Avec 2 ports principaux et quelques villages, l'île est un haut lieu du chamanisme local. Selon la légende, un esprit du lac Baïkal, vêtu du costume d'un aigle royal, fut envoyé sur l'île par les dieux et son fils en devient le premier chaman. Voilà pourquoi l'île est considérée comme sacrée par les peuples vivant autour du lac, notamment les Bouriates. Avant de partir à la découverte de l'Est du pays, ou vers d'autres contrées, il est intéressant de remonter à bord du Transsibérien à destination d'Oulan-Udé. Le nom de la ville évoque déjà un voyage vers d'autres horizons. Elle nous rappelle aussi que nous approchons de la Mongolie et de sa capitale Oulan-Bator. Mais à Oulan-Udé, nous sommes en Russie. Toutefois, nous sommes dans la région de Bouriatie. Les Bouriates figurent parmi les premiers autochtones de la région. La Bouriatie a la particularité d'être l'unique république autonome bouddhiste du pays. Rien d'étonnant à cela, car la région est située à la frontière mongole et ses premiers habitants, les chamans, se sont mélangés aux populations mongoles au Xe siècle. L'influence bouddhiste est donc très présente. On visite à l'entrée de la ville le Datsan Ivolginski, un des rares autorisés sous l'Union soviétique. Le Datsan, lieu de culture bouddhiste, est un lieu de sérénité. Assister aux prières des moines offre un souvenir inoubliable de cette région. Un grand Bouddha en or accueille le visiteur de manière imposante. Autour du Datsan, on découvre les reliefs de nombreuses collines verdoyantes entourant la ville d'Oulan-Udé. À Oulan-Udé, on découvre la plus grande statue de la tête de Lénine au monde. Elle mesure 8 mètres de hauteur et domine la place principale de la ville, la place des Soviets. Ici, nous sommes à la croisée des voyages. On peut faire le choix de se rendre en Mongolie, en empruntant le transmongolien, et partir à la découverte d'un des pays les plus authentiques au monde, rencontrer les nomades, loger dans des yourtes en plein cœur de la nature. Ce sont des expériences inoubliables. En Mongolie, on découvrira la nature sous toutes ses formes et au rythme de celle-ci. On visite la capitale, Oulan-Bator, curieux mélange de haut building, de quartiers de yourtes et de temples mongols. On découvre les steppes où chevauchent les chevaux de Przewalski, les chameaux au cœur du désert de Gobi ou le Romi, champ de gorge mongol.
Yeah.
C'est ici que l'aventure du Transsibérien et du Transmongolien s'arrête. On peut poursuivre le voyage en empruntant par exemple un train chinois qui nous mènera jusqu'à Pékin à la découverte d'une autre civilisation. Ce voyage de Moscou à Pékin en passant par la Mongolie vous prendra 15 à 20 jours, ou plus si l'on veut vraiment s'imprégner des cultures locales et prendre son temps. Ou bien, on peut faire le choix de continuer la découverte complète de la Russie en continuant sur le parcours transsibérien pour se rendre à Khabarovsk, puis à Vladivostok, sur les bords de l'océan Pacifique. Traversée par le fleuve Amour, Khabarovsk est une des villes les plus ensoleillées de Russie. Même si les hivers sont rudes, ici le soleil apparaît 300 jours dans l'année. Si la ville ne nécessite pas une découverte d'une semaine, il est agréable d'y visiter les quais du fleuve Amour, de découvrir le village Sikachyalyan, à quelques kilomètres de la ville, et possédant des pétroglyphes remarquables du XXe siècle avant Jésus-Christ. Khabarovsk est la dernière étape avant la fin du parcours originel en transsibérien à destination de Vladivostok. On arrive à Vladivostok avec le sentiment triste de terminer un voyage exceptionnel, d'avoir traversé l'ensemble du pays le plus grand au monde d'une traite, visité des régions d'un même pays comme si nous découvrions un pays entièrement différent à chaque étape, et finalement de retourner à une certaine réalité. Notre maison transsibérienne nous manquera. On laisse le train derrière soi à l'arrivée à Vladivostok avec un déchirement au cœur. Mais celui-ci se met vite à rebattre quand on se rend compte que nous sommes au bord de l'océan Pacifique et que nous avons réalisé l'une des plus grandes aventures touristiques de ce siècle. À Vladivostok, si vous êtes breton, le parfum de Brest se fera sentir. En effet, le port est une ancienne ville militaire. Le pont à Auvent, reliant l'île Rouski à Vladivostok, vous fera étonnamment penser à celui reliant Brest de Plougastel. Ici, on découvre le port, l'aquarium exceptionnel, et on se balade en croisière, non pas dans la rade de Brest, mais sur le golfe du Japon qui se situe juste en face. Nous aurons, depuis Moscou, parcouru 9289 km de traversée à bord du Transsibérien. Terminus, tout le monde descend. Mais dans la prochaine du Slavez-vous, on repart, et cette fois, en Ukraine.